Bonjour et bienvenue à tous. Comme chaque mois, Chant contre Chant, émission préparée par l'association Profil sur l'antenne Fréquence Protestante, vous propose son regard sur le cinéma. Émission qui sera présentée par moi-même, Jean Lot, et j'aurai à côté de moi Françoise Lot. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Bonjour Jean-Michel Zucker.
Bonjour Jean.
Et bonjour Jacques.
Jacques bonjour.
Ben alors, que dire pour rester dans notre domaine, le cinéma, après les événements atterrants d'il y a à peine 10 jours, sinon que dans ce domaine aussi, il faut avant tout rester debout et continuer. Profil avait fait une large place au cinéaste iranien Yafar Panahi dans son séminaire de septembre, qui était consacré au cinéma comme lieu de résistance à toute forme d'oppression et de censure. Il me semble que la référence à Panahi et à son esprit de liberté doit rester plus que jamais d'actualité pour nous. Nous avons choisi aujourd'hui, avant les coutures habituelles, nous avons donc choisi de rester fidèles à nous-mêmes et d'ouvrir largement les frontières et de vous parler de notre petite sœur, du japonais Hirokazu Koreeda, de la peau de Bax, du néerlandais Axel van Vandam, et enfin de l'idiot du russe Yuri Bykov. On va donc commencer avec notre petite sœur, et après tant de violences stupéfiantes, il est indispensable de se raccrocher un peu d'humanité. Et nous avons choisi de commencer par ce film de Hirokazu Koreeda. Parce que si ce cinéaste, un des plus grands de la génération actuelle des cinéastes japonais, a à son actif une œuvre extrêmement diverse, je crois que c'est quand même dans les films où il parle des enfants que sa caméra se fait particulièrement inspirer. Je pense en particulier à Nobody Knows en 2004, à Still Walking en 2008, pour moi c'est son chef-d'œuvre, à I Wish en 2011, à Tel Père Tel Fils en 2013, film dont nous avions d'ailleurs parlé sur cette antenne. Et aujourd'hui, c'est encore un film sur l'enfance qu'il nous donne avec ce Notre Petite Sœur, où il met en scène 3 sœurs, grandes adolescentes ou adultes, qui à l'occasion des obsèques de leur père qui les a abandonnées 15 ans plus tôt, découvrent qu'il leur a fait, si je puis dire, une petite sœur. Alors Françoise, comment vont se passer ces retrouvailles?
Retrouvailles si l'on veut, puisque les grandes sœurs n'ont encore jamais vu cette petite sœur, en fait, dont elles ignoraient l'existence. C'est comme si cette petite Suzu, de 14 ans, venait de naître sous leurs yeux. Une petite sœur orpheline maintenant, et qu'elles invitent spontanément à venir les rejoindre dans leur vieille maison de Kamakura. « Tu es de la famille maintenant », lui disent-elles, avec une simplicité que je trouve émouvante. Alors Suzu les rejoint. La belle maison de bois sombre abrite dès lors la vie des 4 jeunes filles. Un dortoir de filles, comme elles disent. C'est une maison chaleureuse, entourée de verdure, une maison refuge. Une sorte de ventre maternel où se retrouver pour partager les repas, pour bavarder, se chamailler. Bref, pour partager le quotidien, une maison qui protège.
Qui protège de quoi?
Je dirais qui protège du tragique de la vie. Parce que si dans ces films Koreeda, comme tu le disais, dépeint des enfants, c'est toujours la souffrance des enfants qu'il touche. Les enfants séparés par le divorce de leurs parents, comme dans I Wish. Les enfants abandonnés à leur sort, comme dans Nobody Knows. Ou échangés à la naissance, dans Tel Père, Tel Fils. Et là encore, il évoque l'abandon, la mort prématurée des parents. C'est le père abandonneur, puis c'est la mère qui va quitter le foyer familial. C'est Suzu qui, elle aussi, nous dit-on, a perdu sa mère. Puis elle a accompagné son père jusqu'au bout de sa maladie. Elle a supporté tant de choses, disent ses grandes sœurs. Mais ici, la souffrance des enfants, le tragique, ça doit demeurer hors champ. Nous n'en percevons d'ailleurs que les reflets dans les regards, dans les non-dits, comme dans cette scène où l'aînée des sœurs, la douce, la raisonnable Sachi, refuse de suivre son jeune collègue médecin aux États-Unis comme il le lui demande. Il va divorcer, promet-il. Mais justement, Sachi ne veut pas d'une liaison à l'image de l'adultère qui a brisé sa propre enfance et celle de ses sœurs.
Et pourtant, ce film est lumineux, tu es d'accord?
Il est en effet lumineux, il l'est par la volonté de Koreeda qui veut que la vie triomphe du tragique et de la mort. Et c'est ce qui me touche particulièrement dans ce film. La mort sous-tend tout le film, la mort du père, la mort de la mère de Suzu, la mort de Ninomiya qui tenait un petit restaurant où les jeunes filles allaient bien manger ensemble. On sait aussi que Sachi l'infirmière travaille aux soins palliatifs. Mais chez Koreeda, la mort, reconnue, acceptée, douloureuse, marche de pair avec la vie. Il y a donc des séquences de pur bonheur. La plus belle pour moi, C'est celle de la balade en vélo de Suzo avec son jeune amoureux. Suzo, le visage renversé, ivre de bonheur, dévale à toute allure une allée sous les branches des cerisiers en fleurs, des fleurs lumineuses comme des flocons de neige. J'ajouterai aussi la très belle séquence, la très belle scène du feu d'artifice sur la terrasse de la vieille maison. Les quatre sœurs ont revêtu un kimono de soie et elles font naître des étincelles de lumière dans le silence de la nuit qui les enveloppe. La toute dernière séquence en dit long, à mes yeux, sur ce jumelage de la vie et de la mort. Les quatre sœurs sont en deuil au sortir des obsèques de Ninomiya. Elles descendent sur la plage. Le ciel est d'un gris pâle, très doux, et les jeunes filles parlent à mi-voix. Et on les entend dire « Papa était peut-être pitoyable, mais il était gentil et il nous a donné cette petite sœur. » Peu à peu, on les voit qui s'animent, qui courent le long des vagues, et on entend leur rire.
Oui, Françoise, je pense que ce qui t'a frappé dans ce film, c'est la façon dont Kore-eda oppose la lumière, la souffrance, la vie à la mort. Jean-Michel, est-ce que tu en parlerais comme ça ?
Oh, non, pas tout à fait. Enfin, c'est vrai, je ne veux pas faire le rabat-joie. Mais bon, je suis tout à fait d'accord que le réalisateur a un passé plus que estimable, que c'est un film qui est pour tout public, un mélodrame élégant, sensible, et que on a sous les yeux de très beaux moments de poésie avec ses quatre sœurs, ça j'en conviens. Mais d'où vient alors que pour moi ce film si agréable à voir et qui accumule tant d'atouts avec des plans minutieusement composés, éclairés? Un style délicatement intimiste, la beauté de ces jeunes femmes, de ces quatre sœurs, beauté des paysages aussi, peine à susciter une émotion soutenue. Vraiment, peut-être un peu surligné par la bande musicale, et est-il souvent trop joli, trop lisse. Et le contrepoint de la tendresse avec le tragique, qui faisait le prix des autres films de Kore-eda, est ici pour moi plus émoussé.
Tu n'as pas été vraiment touché par le film.
J'ai pas été vraiment touché par le film.
À certains moments quand même, ou bien jamais ou...
Je me suis ennuyé une partie du temps, en reconnaissant que c'était un beau, entre guillemets, beau film.
Oui. Et toi, Jacques, est-ce que tu as éprouvé un peu ce même sentiment?
Oui, moi, je suis un peu sur la ligne de Jean-Michel. Comment dirais-je, j'aurais voulu apprécier plus, compte tenu du passé de Kore-eda, mais c'est un très beau film, c'est magnifique, on peut pas lui faire de reproches. Toutes les images sont jolies, les personnages jouent bien, les anecdotes sont intéressantes, mais finalement on finit par s'ennuyer. Enfin, moi en tout cas, j'ai fini par m'ennuyer. Peut-être parce que le sujet est trop ténu, que le drame finalement est trop léger, et surtout peut-être que le rassemblement des quatre sœurs se fait presque immédiatement, donc il n'y a pas tellement de suspense. Alors, il y a peut-être une autre chose qui joue pour nous occidentaux, c'est que dans cette famille finalement qui est montrée, contrairement à toutes les familles que Kore-eda ou d'autres ont déjà montrées dans le cinéma japonais, on n'est pas dans le schéma traditionnel de le père, la mère, éventuellement qui divorce, et l'enfant. On est dans un schéma où on a trois sœurs là qui ont chacune, qui vivent leur vie, qui n'ont pas de mari, qui ont des amants, qui ont des boulots. C'est l'éclatement de la famille traditionnelle japonaise. Donc il est possible que son film, comment dirais-je, crée plus la rupture au Japon que pour nous occidentaux. Mais pour nous, c'est un peu mièvre. Enfin, personnellement, j'ai fini par m'ennuyer, quoi.
Ah, c'est sûr, je partage pas ton point de vue parce que ce film, enfin, j'ai beaucoup goûté, mais je dois reconnaître effectivement, c'est un film sans aspérité. C'est un film où il n'y a pas d'événement majeur. Il faut reconnaître d'ailleurs que c'est peut-être osé de la part de Kore-eda de faire un film pareil qui se refuse complètement à toutes les astuces de scénario classique.
Mais écoutez,
de l'événement déclencheur, il ne se passe rien, il ne se passe que la vie.
C'est ça que je trouve remarquable. C'est un pastel. C'est une aquarelle. C'est pas les grandes toiles expressionnistes. C'est un pastel, c'est une aquarelle. On peut peut-être s'ennuyer un peu. Je dirais aussi que c'est un film de femmes. C'est tout à fait.
Non, mais il y a des choses magnifiques.
À l'honneur du film, ce que je dis, c'est un film de femmes finalement. Les hommes, en effet, ils passent, ils sont.
Il n'existe à peine que des femmes. Je ne crois pas que ce soit ça qu'il fasse. Non, il y a des choses qui sont magnifiques. La façon, par exemple, dont il met en scène les souvenirs liés à la cuisine, aux aliments, etc.
Et au paysage.
C'est superbe, c'est superbe.
Et au paysage.
Bon, voilà, mais ça manque un peu de vie, quoi.
Oui, c'est vrai que c'est très, très lent.
Je crois qu'il y a vraiment deux choses. D'une part, le fait qu'il n'y a pas d'événement majeur, que tout est très lisse. Et d'autre part, je crois qu'on peut dire que c'est un film typiquement extrême oriental.
Ouais, extrême oriental. Les gens s'attendent toujours à ce que les gens manifestent pas.
Oui. Il n'y a que ces deux cris posés par les deux sœurs à la fin. C'est de cri libérateur qui donne un peu la dimension du refoulé.
C'est tout à fait inattendu, cette scène où elle crie.
Non, ça c'est tout à fait vrai. Mmh. Par contre, bon, Françoise, tu disais l'image de la promenade en vélo, on l'a déjà vue il n'y a pas longtemps chez Naomi Kawase. Ça faisait un peu redite. De même que les cerisiers en fleurs, c'est magnifique, mais. Dans tous les films japonais, on a les cerisiers en fleurs, on finit par de plus autant apprécier que la première fois.
Il y en a chez Kitano, il y en a chez des tas de gens.
Moi, j'ai beaucoup apprécié. Oui. C'est une scène que j'aimerais revoir tellement elle est belle. Ouais. Même si j'ai déjà vu les cerisiers en fleurs, je ne m'en lasse pas.
Ouais. Bon. c'est bien, oui.
Ouais. OK. Bon, je vois que.
C'est aussi un film sur la beauté du monde.
Non, et puis ça fait plaisir d'avoir un feel good movie, comme disent les Américains, ça fait pas de mal non plus par les temps qui courent. Donc,
tout à fait, c'est réconfortant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a commencé notre émission par ce film. Il fallait quand même mettre un petit peu d'humanité.
Oui, qui est consensuel quand même et qu'on peut voir en famille.
D'accord. Bien, on va passer un film tout à fait différent. On va passer abandonner un petit peu ce cinéma très réaliste. Par un cinéma de pure fiction, je vais parler de La peau de Bax, du réalisateur néerlandais Alex van Warmerdam. Bon, on ne peut pas dire que le cinéma néerlandais soit très connu. Hein. Il n'y a guère que cet Alex van Warmerdam à sortir du peloton des anonymes. Pendant longtemps, il a surtout été connu comme celui qui avait fait Les Habitants en 1992, puis La Robe en 1996, et puis il y a eu la sélection cannoise en 2013 avec ce truc assez énorme qui s'appelait Borgman et dont on a d'ailleurs parlé dans cette émission. Ouais. Le point commun à tous ces films, c'est leur côté absurde, surréaliste, légèrement tartiné d'humour noir et de cynisme. Et voilà que cet Alex van Warmerdam, si difficile à prononcer, vient de sortir et nous offrir La peau de Bax. Alors Jean-Michel, est-ce que pour toi, ce film appartient à la même famille que les autres, hein, famille qui a fait de leur réalisateur quelqu'un d'assez inclassable, il faut dire?
Oui, c'est une grande personnalité. Pour moi, il est de la même famille que Borgman, dont on s'était délecté en 2013, et qui nous avait troublés par le récit d'une invasion d'une maison bourgeoise par une trilogie maléfique qui était sortie de nulle part. Avec La peau de Bax, on est tout à la fois dans un thriller burlesque, une comédie dramatique, la parodie même d'un western, et c'est ce mélange des genres et la façon suprêmement habile d'en entremêler les codes qui donne à Van Warmerdam toute son originalité, d'autant qu'il en maîtrise la mise en scène avec un art inimitable.
Mais ta façon de présenter le film met dans la bouche, je trouve. Hein. De quoi s'agit-il alors?
Oui, parce que le scénario est admirablement construit et écrit avec une unité de lieu, de temps, d'action qui rappelle les auteurs classiques. Il est difficile à raconter ce film parce qu'il tire une partie de son intérêt de situations imprévues qui s'enchaînent avec une grande inventivité. En fait, il s'agit d'un problème unique et presque conceptuel et qui est le suivant, la confrontation sans merci de deux tueurs à gages à pointer par le même commanditaire, ce qui est déjà assez absurde. On ne peut le dire autrement. On peut le dire en disant que le matin de son anniversaire, Schneider, bon mari et bon père de deux jolies petites filles, est missionné pour abattre Ramon Bax, écrivain solitaire et grincheux, qui vit au milieu des marécages. Schneider accepte, mais la tâche se révélera plus compliquée que prévu. Je n'en dis pas plus, d'autant que Bax, dont il veut la peau, a reçu une commande symétrique. Supprimer Schneider.
Alors on a l'impression d'une espèce de jeu vidéo. Hein. C'est un jeu de guerre, c'est quelque chose du même genre. Qu'est-ce que tu...
Pas exactement, mais il y a une mécanique absurde et grinçante qui s'inspire à l'évidence du burlesque américain dont l'auteur revendique l'influence, en particulier celle de Laurel et Hardy. rapproché de la peau de Bach, c'est assez surprenant. Mais les événements contraires qui font obstacle au projet de Schneider et de Bach vont fonctionner exactement comme des gags, des coups de théâtre inattendus qui déclenchent autant de rebondissements et tiennent en haleine le spectateur. Et tout le film est ainsi une comédie noire d'une ironie cruelle, un divertissement à la mise en scène efficace et pour moi jubilatoire.
Mais finalement, est-ce que pour toi ce film s'élève au-dessus du simple divertissement ?
Alors, c'est ça le problème. Pour moi, oui, il va effectivement plus loin que le simple divertissement, puisque on y retrouve, baignant dans un humour allègrement cruel, allègrement, qui inquiète autant qu'il amuse, la critique du conformisme bourgeois, la satire mordante des familles dysfonctionnelles, déjà vue dans les autres films de l'auteur, et du comportement infantile des adultes, bref, la caricature des films de genre. Pitoyable mais authentique échantillon d'humanité, les caractères des personnages, brillamment interprétés par la fidèle petite famille d'acteurs du cinéaste, sont à dessein excessif mais crédible, outré mais drôlatique et réjouissant, tandis que lui-même, autodérision suprême, se met en scène dans le rôle d'un écrivain alcoolique et drogué. Et c'est un bon acteur. Enfin, l'esthétique du film, et c'est important pour moi, est très picturale. Les demeures des deux protagonistes sont un peu à la opère et le décor naturel omniprésent joue un rôle de premier plan qui submerge le spectateur comme il est prêt à engloutir les acteurs eux-mêmes. C'est un paysage oppressant de marais, de la lumière crue du soleil, un labyrinthe dans lequel les personnages se perdent et s'épient, tandis que les frémissements de l'eau et des roseaux contribuent à la montée de l'angoisse du spectateur.
Eh bien, oui. Voilà une présentation qui impressionne.
Alors, Jacques,
je me souviens que tu avais beaucoup aimé Borgman. Est-ce que tu éprouves pour Bax le même sentiment, le même plaisir?
Malheureusement, non, parce que j'avais beaucoup aimé Borgman, parce qu'il y avait une histoire qui était quand même passionnante de prise de possession d'une famille par un groupe d'individus. Alors on retrouve complètement effectivement les personnages déjantés et l'humour noir du réalisateur, mais pour moi en tout cas, ça a bien marché pendant, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis après j'ai trouvé que le film tournait en rond. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement au début, ce décalage, cet humour froid, ce décalage entre l'aspect très normal de ces individus, bon père de famille, écrivain, et puis leur métier de tueur à gages, et l'occasion de gags, de trucs qui sont remarquablement faits. Le problème, c'est qu'à partir du milieu, on tourne un peu au thriller classique. Il y a beaucoup moins de gags, c'est beaucoup moins inventif. Et puis surtout, on a compris. Et du coup, un thriller, ça suppose du suspense. Or, comme ces personnages sont aussi, je dirais, mauvais l'un que l'autre, il n'est pas question de s'identifier, il n'y a pas un bon, un mauvais.
Non, ça, c'est sûr.
Donc, on se fiche complètement de savoir lequel sera tué ou ne sera pas tué à la fin. Et donc, on finit par un peu s'ennuyer parce que, contrairement à Laurel et Hardy, j'ai trouvé que ça manquait un peu de gag. Enfin, ça tient pas tout à fait la distance. Donc, encore une fois, le style est bien celui de Borgman au début. La situation est intéressante. Personnellement, mais c'est personnel, hein, j'ai trouvé que ça tenait pas la distance et que du coup, je finis par m'ennuyer, quoi. Voilà.
Oui, François, est-ce que tu t'es ennuyé toi aussi
ou... Pas à l'instant. Pas à l'instant, c'est la deuxième fois que je voyais le film puisque je l'avais vu également à Locarno et je me suis régalée au point de me dire si je trouve le DVD, je me l'achète. C'est un film dont j'ai beaucoup aimé. Bon, je dirais l'esthétique, hein, parce que c'est une lumière aveuglante qui permet de voir de la violence s'opérer en plein jour. Ça m'intéressait, bien sûr. J'ai rigolé, bien sûr, au quipropos et au gag. Jacques, tu dis qu'il y en a moins dans la seconde partie. Et moi, j'ai eu l'impression que la salle riait beaucoup pendant la première partie du film, parce que les quipropos s'enchaînent et que vraiment on rit. Moi, j'étais dans une bonne salle, les gens rient vraiment. Et la seconde partie, ils riaient moins. Je me suis demandé pourquoi. Et je me demande, contrairement à ce que tu disais, on se fiche de savoir qui sera tué. Et moi, je me demande si on s'en fiche tellement que ça. J'ai eu le sentiment que dans la seconde partie du film, on commençait à donner plus d'épaisseur à Bax.
Ils sont pas d'épaisseur.
Eh bien, oui, moi, je l'ai pas forcément ressenti comme ça. Et j'ai eu le sentiment qu'à ce moment-là, on riait beaucoup moins. Et que, personnellement, j'avais pas envie que Bach soit tué.
Je confirme. J'ai exactement la même impression.
J'avais pas envie qu'il soit tué.
Plus méchant que vous, alors, parce que vraiment, ça m'était différent.
On est bon public.
Oui.
C'est un assassin très sympa, ce Bach.
C'est aussi. Ouais, mais c'est aussi un film qui montre, en effet, cette violence qui se joue en plein jour, dans le soleil, dans les marécages et tout. Et est-ce que la violence gratuite, ça fait pas rire d'un bout à l'autre du film? Il y a quelque chose là qui m'a dérangé. C'est comme un rêve.
même, d'un cauchemar. Et on passe.
Je me suis demandé si on avait toujours envie de rire devant cette violence gratuite. Oui, parce que c'est un jeu vidéo, certes, mais il y a un moment, c'est plus un jeu vidéo. Et je te dis, moi, j'avais pas envie qu'il se fasse, tuer.
Ouais. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé le film, mais j'ai un peu ressenti, effectivement, cette perte un peu de rythme à la fin. Et je me suis fait une remarque. Je me suis dit, finalement, quand on prend les grandes comédies classiques, absurdes, il y a toujours une espèce de d'amplification, d'entrée dans la folie à la fin. Qu'on prenne les Marx Brothers, qu'on prenne Billy Wilder, qu'on prenne ce qu'il y a dans le thème. La folie rentre de plus en plus dans le film et aboutit une espèce d'explosion à la fin.
On accélère.
Alors qu'il reste toujours sur le même, Vermeerdam, il reste toujours sur le même rythme froid, logique, impitoyable.
Ouais.
Et c'est peut-être
l'explication.
C'est peut-être un peu l'explication de ce ralentissement senti sur la fin.
Mm-hmm. La fin qu'on ne dévoilera pas est superbe.
Oui, la fin, absolument. Oui.
C'est vraiment un film dépourvu de moralité. Hein. C'est un film complètement dépourvu de moralité. On voit les choses.
On peut le dévoiler.
Et il n'y a pas de jugement de valeur. Hein.
Oui, parce que finalement, on peut quand même dire, tu disais qu'effectivement, par rapport à Borgman, dans Borgman, il y avait un côté philosophique, il y avait un sens. Là, on a l'impression qu'effectivement, il y a certains, l'auteur démolit un peu la famille néerlandaise et les
très peu, parce qu'on le voit assez peu, en fait.
Pas tant que ça, c'est pas ça qui est démoli, c'est pas
mais
la famille.
Il y a le côté double visage de tout être humain, le côté Dr. Jekyll and Mr. Hyde, et l'évolution des personnages au cours du temps qui fait que Bax nous devient plus sympathique.
Oui,
Bax
est bien plus sympathique. Schneider, au départ, c'est vraiment le bon père de famille. On découvre qu'il est tueur à gages. On rigole, parce qu'on peut faire que ça, le genre du film. Et on rigole de moins en moins.
Puis on peut se demander, enfin, c'est quoi, moi je me suis posé la question, après Borgman en avait voulu trouver un sens, une interprétation, et si Vermeerdam n'était pas été furieux de ce qu'on ait voulu trouver à faire un sens à son film, lui qui est l'apôtre du non-sens.
Ça, c'est possible.
Et si bien que là, il a voulu faire un film en disant, oh, ce film, vous ne lui trouverez aucun sens.
Oui. Parce que Borgman ouvrait des pistes, mais qui n'aboutissait absolument nulle part.
Il n'aboutissait nulle part.
Oui, mais il y avait une tension. Il y avait une tension qui était plus forte.
Si, il y a une tension quand au moment où ils sont perdus dans une espèce de labyrinthe de roseaux, ils font du bruit, mais ils se voient pas. Il y a une espèce de on s'y est l'angoisse. C'est un cauchemar. On est dans un rêve.
Mais c'est un cauchemar en plein air comme tension.
Oui, c'est pas encore.
C'est un cauchemar en plein soleil.
Bien, mais on va voir si la suite nous réservera un autre cauchemar. On va faire une petite pause médicale et ensuite passer, excusez-moi, musicale et passer ensuite à cet idiot. Nous allons reprendre notre émission avec Dourak, titre français L'Idiot, de Youri Bikov, cinéaste russe très peu connu, ce qui est normal. Il n'a que 34 ans et L'Idiot est simplement son second film, son premier film étant Le Major, qui est sorti en 2013 et qui a été sélectionné à cette époque-là à la semaine de la critique à Cannes. Enfin, sans présager de l'avenir, on peut dire que Youri Bikov fait partie de ces cinéastes russes contemporains qui, comme Pavel Lungin, comme Alexei German, ou encore plus récemment comme Andrei Zaltsev, dans des films comme Elena ou Léviathan, portent un regard sans complaisance, et c'est un euphémisme, sur la Russie post-communiste. Dans son premier film, Le Major, Youri Bikov exposait le problème moral d'un policier qui, ayant tué un enfant alors qu'il conduisait en état d'ivresse, doit choisir entre la vérité et sa carrière. Eh bien, c'est un peu un problème de conscience de même nature qui est le sujet de Dourak. Au fait, Jacques, de quoi s'agit-il ?
Youri Bikov raconte l'histoire simple et terrifiante d'un homme honnête qui est perdu dans une société égoïste et corrompue. Dima Nikitin, donc le héros, est plombier dans les services d'entretien d'une ville russe. Il étudie pour devenir ingénieur et il vit avec ses parents, sa femme et son fils dans un petit appartement. Sa mère et sa femme lui reprochent sans cesse d'être un idéaliste, donc d'être un durak en russe, un espèce d'idiot, et de n'avoir pas compris que la seule façon de sortir de la misère est de rentrer dans le système et de faire des affaires plus ou moins louches. Mais lui est soutenu par son père, qui a les mêmes idéaux,
et la même rigueur morale. Alors une nuit, il doit intervenir en urgence dans un immeuble délabré où l'on a signalé la rupture d'une canalisation. Il s'aperçoit alors que l'immeuble, qui abrite plus de 800 personnes, menace ruine et peut s'effondrer d'une heure à l'autre. Dans la Russie d'aujourd'hui, en tout cas selon le film, que devrait faire tout homme sensé dans une situation pareille ? Eh bien, ne rien dire et aller se recoucher. Mais Dima n'est pas sensé, c'est un durac, un idiot. Il va donc remuer ciel et terre pour alerter les autorités municipales et les convaincre de faire évacuer l'immeuble.
Alors bien sûr, la question qui se pose, c'est y arrivera-t-il ?
Eh bien, je ne vous le dirai pas, car le film est un thriller et il est bon de garder le suspense intact. Mais sachez quand même qu'il y aura de nombreuses péripéties tout au long de cette très longue nuit d'hiver. Bykov construit son film un peu comme une tragédie classique, avec unité d'action, de temps, de lieu, et en nous plongeant dans un décor absolument sordide. Trois groupes gravitent en fait autour du héros. Sa famille d'abord, où misère et rancœur s'accumulent, et d'ailleurs où originalité du film, ce sont les hommes ici qui incarnent la rigueur morale, et les femmes, la compromission et l'égoïsme.
C'est pas courant, c'est pas courant.
On cifra, mais bon.
Deuxième groupe, la population de l'immeuble, un sous-prolétariat miséreux, alcoolique, violent, il faut vraiment être un saint pour vouloir les sauver, et enfin l'état-major de la mairie. Ils sont dans le même bateau, car tous sont piqués dans la caisse, et donc la question pour eux, c'est comment s'en sortir sans que cela fasse trop de vagues. Et le film peint avec une vérité féroce le fonctionnement de cette société totalement corrompue. Mais les personnages ne sont pas caricaturaux, y compris dans les seconds rôles. Le chef de Dima, par exemple, une crapule, aura un sursaut de dignité. Et le maire, qui est une femme, veut sincèrement sauver les habitants de l'immeuble. Autant d'ailleurs pour sauver son poste que par amour du prochain. Mais on s'aperçoit bientôt qu'elle n'est qu'une marionnette entre les mains d'un homme d'affaires local qui, en fait, règne sur la ville.
Donc, un film féroce sur la corruption.
Oui, un film très féroce. On vole, on brûle les livres de comptes, on élimine les témoins gênants. Le film est vraiment le combat d'un homme qui veut rester honnête dans un monde qui est bâti sur la malhonnêteté. Mais au-delà de la corruption en Russie, il me semble avoir une portée beaucoup plus générale, car il pose la question de la responsabilité individuelle. Toutes les personnes autour de Dima, sauf son père, sont coincées dans leur égoïsme. Leur seul souci est leur réussite individuelle, en se pliant au code de la société dans laquelle ils vivent. Lui seul, en fait, pose la question de la responsabilité de chacun dans le désastre collectif. Lui seul se dresse pour faire bouger les choses. Et il me semble qu'on peut considérer, d'une certaine manière, cette ville corrompue de Russie comme un symbole de notre monde où l'individualisme, la réussite égoïste peuvent conduire, finalement, à la catastrophe collective, qu'elle soit sociale ou climatique. Donc on a besoin de Durac. Ce film très efficace, mais qui fait aussi réfléchir, a eu le prix du jury œcuménique à Locarno en 2014, et l'acteur principal, Artem Bistrov, a eu le prix d'interprétation masculine. Donc un film qui a été largement reconnu à Locarno en 2014.
Tout à fait. Alors Françoise, est-ce que tu partages l'avis de Jacques sur le fait que, plus encore qu'un film sur la corruption, Durac est aussi une attaque virulente contre un comportement individuel égoïste qui conduit à la catastrophe?
Oui, tout à fait. Je rejoins tout à fait Jacques. C'est un film à la fois sur la corruption et sur ce qu'il appelle la responsabilité individuelle. Moi, j'ajouterais également la responsabilité collective. Mais j'ai été gênée, moi, par le caractère trop démonstratif du film. Peut-être trop réaliste pour que j'y croie. Parce que cette incroyable fissure qui lézarde l'immeuble sur toute sa hauteur, d'ailleurs le plan est extraordinaire, hein, vraiment bravo.
Ah oui.
Donc cette incroyable fissure m'intéresse davantage peut-être sur le plan métaphorique que sur le plan réaliste. C'est vrai que c'est une, comme le dit Jacques, une métaphore de la Russie d'aujourd'hui. Mais moi j'y verrais bien aussi, sur un plan plus général, la lézarde qui menace aujourd'hui notre société, nos sociétés, nos démocraties bien sûr. Une lézarde qui... lentement, très lentement, peut-être trop lentement, sort tout doucement du déni que nous avons construit tout autour. Et j'y vois, mais sans doute est-ce l'époque que nous traversons, nous, en ce moment, nous, Parisiens et nous, Français. Moi, j'y vois un film sur l'imminence d'une catastrophe que nous ne savons pas voir pour des raisons multiples, politiques, sociales, économiques.
Oui.
Un film sur l'imminence d'une catastrophe.
Jean-Michel, toi, ta réaction, toi?
Oui, même ma réaction, elle emprunte un petit peu aux deux précédentes, c'est-à-dire que je l'avais vu il y a 2 ans à Locarno, quand il a obtenu le prix du jury œcuménique, je l'ai revu avec beaucoup d'intérêt, et même un intérêt renouvelé actuellement, parce que Je suis très sensible au côté pamphlet contre l'organisation sociale, qui n'est pas seulement celle de, pas de l'URSS, de la Russie, bien
la
sûr,
Russie, oui.
De la Russie. Mais on est un peu surpris. On se demande d'abord si c'est pas une attaque rétrospective. Non, pas du tout. C'est bon. Et on est surpris aussi que ça a été sponsoré par le ministère de la Culture, parce que c'est ce qui est dit au début, si j'ai bien entendu.
Ah, mais les œuvres ont été conçues sous Brejnev, ils n'y sont pour rien.
Non, oui. non, c'est pas uniquement ça. Je pense que là.
Tu as une explication.
Moi, j'ai une explication très claire. C'est que, comme dans Léviathan d'ailleurs, l'attaque est sur le régime, sur les pouvoirs locaux.
Oui.
Donc, comme Poutine fait, au moins en parole, aussi l'attaque de la corruption.
Lutte contre la corruption.
C'est un film, finalement, qui va dans le bon sens.
Oui. Alors, qui va dans le bon sens, mais qui met quand même aussi l'accent sur la violence politique.
Ah, tout à fait. Oui.
La violence politique et toutes les collusions. Alors, le personnage de Dimka, de Dimitri, est à proprement christique.
Oui. Oui, c'est ce que je n'ai pas compris que, je vais vous choquer, je n'ai pas compris qu'on a donné le prix du jury œcuménique à ce film.
Mais justement pour ça.
Pour deux raisons. D'une part, parce qu'un jury œcuménique qui se respecte ne va pas couronner un personnage aussi christique. Et que d'autre part, je trouve que l'humanité est présentée sous un tel jour qu'un jury œcuménique se respecte. Non, on va dire l'humanité, c'est comme ça.
Oui, non, c'est pas, c'est bon, d'autant que la fin peut expliquer aussi qu'il ne l'ait pas eu, mais enfin, il l'a eu, et moi je pense que c'est pour la qualité morale de ce jeune homme, qui est à la fois un naïf, un fou, mais en même temps, qui a une grande rigueur. Alors moi, ce à quoi je suis sensible pour finir, c'est le fait que cinématographiquement, ça me paraît un film qui use des moyens et des outils du grand cinéma soviétique, avec toute une série de procédés. Enfin, on a parlé de la contre-plongée de la fissure, mais il y a en même temps des mises en perspective, il y a de grands moments de cinéma.
Moi, je trouvais que tout ça, c'était d'un classicisme insupportable.
C'est extrêmement classique.
Je trouvais qu'il n'y avait aucune idée de cinéma.
C'est un travelling.
Alors, mais là, les arts,
c'est un bon élève.
Je considère qu'un film classique bien fait et efficace est un bon film.
Un bon film.
C'est pas forcément la prime à l'originalité à tout prix. Alors c'est vrai que si on compare au film de Zviagintsev, le Léviathan,
on est à 100 lieux parce que
je ne dis pas que c'est supérieur. Je l'ai sur deux plans complètement différents. Ouais. Léviathan jouait sur des images fabuleuses. Là, on est dans un décor sordide. Il était beaucoup plus imaginatif sur le plan du cinéma. Là, on est dans le classicisme. Mais ceci étant, c'est un film qui a une force, à mon avis,
considérable.
Oui. Et qui est un film qui est, je dirais, simple pour tout spectateur. On ne va pas chercher des trucs de cinéma où les cinéphiles vont aller trouver des trucs.
L'objectif, c'est l'efficacité.
Et bon, c'est aussi la qualité d'un film. Hein.
Oui. Mais ceci, vous voulez pas trouver que les personnages étaient un peu monolithiques.
Trop démonstratifs.
Pas tant que
trop
ça, justement.
Non, parce qu'il y a de la nuance chez les édiles locaux.
Oui.
Et justement, la grande scène magnifique de cette réunion des édiles locaux qui apprennent le danger qui menace cet immeuble, je trouve que c'est un morceau d'anthologie.
Oui.
Cette scène est magnifique, c'est vrai.
Et les édiles locaux qui pourraient être finalement des fantoches, qui le sont d'ailleurs un peu dans le Léviathan,
c'est vrai.
Là, ils sont beaucoup plus complexes.
C'est exact. Tout à fait. Donc c'est un film qu'il faut, on a vraiment aller voir pour sa force.
Il faut aller voir, oui, c'est un film à voir. Ouais.
On va passer maintenant, parce que je vois que le temps passe, à nos coups de cœur habituels. Oui. Et on va commencer avec un film, je dirais pas exhumé, mais ressorti, un film mythique, un film de Jacques Rivette, Out 1. Parce qu'il paraît qu'il faut dire Out 1 et pas Out 1, dont Jean-Michel
va nous parler. Il s'appelle Out 1, mais enfin bon, ça fait rien, on peut dire. Alors, c'est un redoutable défi, effectivement, de parler en 2 minutes d'un film totalement hors norme, inédit en salle jusqu'à ce jour, de Jacques Rivette, d'une durée de 12h30. Jacques Rivette, le réalisateur de la nouvelle vague française, né en 1928, tout d'abord critique et fondant avec Éric Rohmer la Gazette du cinéma avant de rejoindre les Cahiers du cinéma dont il devint rédacteur en chef en 1963. On se rappelle les titres de ses films, notamment le premier long métrage, Paris nous appartient, et puis Le Pont du Nord, La Bande des Quatre. Et ensuite, en 1971, Out One, Noli m'est en géré, qui amplifie le projet de L'amour fou qu'il avait fait précédemment, un film fleuve de plus de 4 heures qui reflétait un travail d'improvisation avec sa bande de comédiens parmi les meilleurs de l'époque. Je cite Bulogier, Jean Bouise, Marcel Bozonnet, Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léo, Michael Lonsdel et j'en passe. Ce n'est que 20 ans plus tard que le film a été présenté sur la 7 Arte dans son intégralité, un film que Jacques Rivette souhaite délibérément « out », c'est-à-dire en dehors, par opposition au côté « cool » de ce qui est « in ». Souligné encore par Nolim Étangéré, c'est-à-dire « ne me touchez pas ». Le projet est l'élaboration d'un des films imaginables qu'on peut faire autour des 3 courts romans de l'histoire des 13 de Balzac qui tentent de transposer à notre époque cette histoire de société secrète et de fantastique sociale, utopie ardente mais floue de jeunes gens exaltés qui a pour cadre Paris, Paris qui est le terrain d'élection de tournage de Jacques Rivette. Alors il y a 8 épisodes dans cette version originale du film qui sort pour la première fois et il faut absolument aller voir au cinéma au Reflet Médicis au moins jusqu'au 1er décembre ce film, même si vous ne deviez voir qu'un seul épisode et vous achèterez ensuite le DVD qui sort en même temps.
Nous n'y manquerons pas. Bon, on va passer à un film beaucoup plus récent dont va nous parler Françoise, Francophonia.
Francophonie, oui, parce qu'on y parle français, mais tout autant le russe, la voix off de Sokurov, l'allemand, la langue de l'occupant d'alors, et anglais, pour que tout le monde se comprenne. Pourquoi direz-vous ? Parce qu'il s'agit de la protection d'œuvres d'art, celle du Louvre en l'occurrence, et que, comme le dit Sokurov, un musée n'est pas la propriété d'un pays, c'est un bien universel. L'art parle toutes les langues en même temps. Nous avons déjà fait à bord de l'Arche russe le grand voyage de l'histoire en parcourant toutes les salles du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Mais aujourd'hui, c'est la France, son histoire, sa culture dont parle Sokurov. Que serait la France sans le Louvre, interroge-t-il. Comment le Louvre a-t-il pu survivre au cours de l'histoire et quel a été le prix de cette survie? Alors le film met en scène un certain Jacques Jaujard, directeur du Louvre, dans Paris occupé par l'armée nazie, et le comte Wolf Metternich, un officier allemand chargé du Kunstschutz, c'est-à-dire la protection du patrimoine artistique dans les pays occupés. C'est grâce à la difficile relation entre ces deux hommes, qui se voulaient l'un et l'autre protecteurs de l'art et de la mémoire sans considération des frontières, que les trésors du Louvre ont été sauvés. Quel en a été le prix ? Sokurov, dans ce document d'archives, superpose au passage des bombardiers allemands sur Paris un discours de Pétain resté dans toutes les mémoires. Sokurov n'en reste pas aux archives. En ouverture du film, on le voit discuter sur Skype avec un ami, capitaine de bateau, perdu en pleine tempête dans la mer du Nord. Le bateau transporte des containers bourrés d'œuvres d'art et finit bien sûr par sombrer. Belle métaphore s'il en est, des œuvres d'art saccagées sous nos yeux par les tempêtes d'aujourd'hui. Dans ce beau film sombre et nostalgique, il y a d'abord le désarroi d'un homme, Sokurov, qui conjure les citoyens du monde entier d'imposer enfin un Kunstschutz, à savoir des lois de sauvegarde du patrimoine artistique mondial.
Oui, merci de cette sorte de saccage, de protection du saccage. Je crois que c'est notre saccage dont tu vas nous parler, Jacques.
Oui, alors Le Bouton de Nacre est un documentaire du Chilien Patricio Guzman. C'est un film assez étrange, d'une grande beauté, qui se déroule sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'eau. L'eau qui baigne le Chili sur plusieurs milliers de kilomètres. L'eau dans des images magnifiques et sous différentes formes. Ça va du lac à l'océan et à la neige et au glacier. Et puis l'eau qui s'oppose évidemment à l'aridité du désert d'Atacama qu'avait déjà filmé Guzman. Le deuxième niveau de lecture, c'est l'histoire des premiers occupants de Patagonie, ces groupes ethniques qui vivaient de la pêche et qui n'hésitaient pas à voyager sur des centaines de kilomètres, voire à doubler le Cap Horn, sur de frêles esquifs. Ces peuples furent décimés au XIXe siècle de manière assez brutale, très brutale même par les colons. Et Guzman raconte leur histoire et surtout interroge les rares survivants, il ne serait qu'une vingtaine. Et c'est très émouvant d'entendre ces personnes âgées nommer dans leur langue, qui a quasiment disparu, des objets de la vie usuelle. Enfin, le troisième niveau, cher à Guzman, fait passer l'eau source de vie à l'eau source de mort. Il raconte comment le régime du général Pinochet faisait disparaître les cadavres des personnes assassinées en les jetant dans l'océan depuis un hélicoptère. Et alors Guzman montre avec une froide précision comment les corps étaient attachés à un rail pour qu'ils ne remontent pas à la surface. Il filme toute l'opération, puis des restes de rails qui sont corrodés par 20 ans au fond de l'eau. Évidemment, des corps, il ne reste rien. L'image, dans sa simplicité, crée vraiment un choc. C'est un très beau film, chargé de poésie et d'émotion.
Oui, c'est un film magnifique et également terrible également. Hein. Alors, moi, je vais vous parler également d'un film assez terrible. Je ne sais pas d'ailleurs si le mot coup de cœur est très approprié pour définir l'impression laissée par ce film. Il s'agit constamment d'un film remarquable. Son sujet est terrible et sa réalisation ne ménage pas le spectateur. Après toutes ces précautions, je vais parler du Fils de Saul, premier film du jeune réalisateur hongrois Laszlo Németh, qui a reçu le grand prix du jury au Festival de Cannes en 2015. Alors, l'histoire se déroule en octobre 44, dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. Son héros est un prisonnier juif, Saul Auslander. Il fait partie des Sonderkommandos, ces prisonniers juifs isolés des autres pour servir de main-d'œuvre aux nazis dans leur plan d'extermination. Et c'est au cours de ce sinistre travail, alors qu'il est en train d'enlever des cadavres pour les conduire à des cadavres de la chambre à gaz, que Saul découvre, dans la masse des corps, un jeune garçon dans lequel il reconnaît ou croit reconnaître son fils. Il veut alors à tout prix subtiliser ce corps pour lui éviter le crématoire et lui donner une sépulture décente et conforme à sa foi. Et tout le film va consister dans la narration de cette terrible tentative. Alors, Laszlo Németh a beaucoup travaillé avec Bélatar. Cela se sent dans le niveau de ses exigences de mise en scène. Il a fait le choix ici de se mettre en quelque sorte dans la peau de son personnage. Sa caméra ne cadre que ce que voit Saul, c'est-à-dire un monde fragmenté, haché, tantôt immobile, tantôt emporté dans tous les sens, tandis qu'à l'inverse de cette fragmentation visuelle, la bande sonore enregistre la totalité de l'environnement sonore, cris, coups, bruits chantiers, donnant l'impression d'un tunnel retentissant dont on ne sort jamais. Emporté dans un maelstrom d'images et de sons, le spectateur en retire une sensation d'immersion totale au cœur de l'univers concentrationnaire. C'est à la fois insupportable et d'une force impressionnante. Je crois qu'il est venu maintenant le temps de nous quitter. Merci à Françoise, à Jean-Michel et à Jean qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Merci à tous ceux qui l'ont écouté et que nous invitons à nous rejoindre dans notre prochaine émission qui aura lieu le mardi 22 décembre de 13h15 à 14h.